Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Sindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour. Suivons d'abord l'ossature de ce journal. Les habitants de Goma satisfaits ces derniers temps du travail de la régie des eaux et de la SNEL. Après des années marquées par des coupures fréquentes et des pénuries d'eau, les deux entreprises publiques ont mis en œuvre un plan d'action pour moderniser leurs infrastructures et renforcer la qualité des services. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo-Mwadiam-Vita, en visite au Maniema, a tenu ce lundi une séance de travail avec les unités du quartier général avancé de la 33e région militaire. Lors de ces échanges, plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées aux effectifs, à l'approvisionnement, à la spoliation des domaines militaires et au commandement des différentes unités. Notre invité est Dr Alain Moukoua, président du Conseil provincial de l'Ordre des médecins vétérinaires à Kinshasa. Il s'exprime à l'occasion de la Journée mondiale du chien, célébrée le 26 août de chaque année. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ce journal part du Nord Kivu, où les habitants de la ville de Goma constatent depuis quelques semaines une amélioration progressive dans la distribution de l'électricité et de l'eau potable. Après des années marquées par des coupures et des pénuries, la Société nationale d'électricité SNEL et la Régie des distributions d'eau, Régie des eaux, intensifient leurs efforts. Cela malgré un contexte difficile. Nous sommes allés à la rencontre de quelques habitants et vous proposons ce reportage rendu par Richard Junior Kamunga.
Après des années marquées par des coupures fréquentes et des pénuries d'eau, les deux entreprises publiques ont mis en œuvre un plan d'action pour moderniser leur infrastructure et renforcer la capacité des services. Selon plusieurs habitants interrogés, la régularité de l'électricité et de l'eau s'est nettement améliorée.
Maintenant, il est facile pour nous de préparer et de faire notre cuisine grâce à la SNEL avec nos réchauds électriques, car elle ne coupe pas. On n'a plus peur de mettre de la nourriture sur la plaque.
Avant, nous pouvions passer deux ou trois jours, voire une semaine, sans eau ni courant. Aujourd'hui, les coupures sont rares et annoncées à l'avance, témoigne cet habitant du quartier Katindo.
Par le passé, on souffrait beaucoup. Un bidon d'eau coûtait 250 francs et des fois, ça ne coulait pas. Je suis très contente depuis qu'on a de l'eau en permanence et on ne coupe pas. Je suis vraiment très contente.
Ces efforts constituent une étape importante pour le développement économique de Goma, où la disponibilité de l'eau et de l'électricité reste un facteur clé pour les activités industrielles, artisanales et domestiques.
Par contre, dans le territoire de Beni, depuis 6 jours, la cité frontalière de Kassindi, à 90 km au nord-est de la ville de Beni, est plongée dans le noir. En cause, une panne survenue sur la ligne principale qui transporte le courant à partir de l'Ouganda. Conséquence, les activités socio-économiques tournent au ralenti, comme l'explique le président de la société civile du groupement des Basongora, Serge Kalenga.
Il y avait un transformateur qui distribuait les courants au niveau de l'hôpital général et tous les quartiers, Mwangaza, Latan et partout, qui a subi un coup. Du coup, le transport a été endommagé. On n'a pas encore réparé ce transport. La priorité d'abord, c'est l'hôpital général, là où il y a des corps qui doivent être pris en charge. Et vous savez, l'hôpital général n'a pas de groupe électrogène. On va leur permettre d'alimenter tout l'hôpital. Voilà pourquoi les ingénieurs c'est bas pour que cette partie soit servie. Ils pouvaient commencer à préparer comment payer un transformateur pouvant distribuer les courants dans les Congo Asika. Mais ni les Congo Asika, ni les quartiers Mapati, les deux nouveaux quartiers, utilisent un seul transformateur qui est au niveau de l'hôpital général. Mais ils nous ont rassuré que dans les plus brefs délais, on aura déjà du courant parce que toutes les batteries sont déjà mises en place. Imaginez-vous ceux qui dépendent du courant sont en train de souffrir actuellement. C'est très compliqué. Kassindi, le courant n'est pas stable. Il y a pire à tout moment.
Contacté à ce sujet, le directeur technique de la Société nationale d'électricité à Kassindi, Claude Moussoubao, indique que les transformateurs sont en réparation. Il ajoute que le courant devrait être rétabli dans la cité frontalière de Kassindi dans les prochaines heures. En séjour au Maniema, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, a tenu ce lundi une séance de travail avec les unités du quartier général avancé de la 33e région militaire. Il a profité de cette rencontre pour recueillir les défis auxquels font face les unités et leurs dépendants sur presque tous les plans dans cette province. Il a promis un soutien pour leur permettre d'assurer efficacement la défense du territoire national. Notre permanente à Kindu, Florence Kizalunga, pour plus de détails.
Tout a commencé par un briefing opérationnel présenté par les commandants second de la 33e région militaire. Ces derniers a donné un aperçu global de la situation sécuritaire et militaire dans la province du Maniema, qu'il qualifie de relativement calme. Néanmoins, il a pointé du doigt quelques insurrections ponctuelles menées par des groupes armés identifiés comme les Wazalendo, accusés de commettre des actes de banditisme urbain. Lors de ces échanges, plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées aux effectifs, à l'approvisionnement, à la spoliation des domaines militaires et au commandement des différentes unités. L'objectif était de trouver des solutions à ces défis, tout en saluant les efforts déjà fournis par les commandants suprêmes des FARDC pour stabiliser la province du Maniema. Guy Kabombo Mwadiamvita a promis de transmettre à l'état-major général les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les propositions formulées. Le vice-premier ministre de la Défense a ensuite poursuivi sa tournée au centre des santé militaire des références de Luama, où il a écouté les doléances du médecin directeur concernant la prise en charge des militaires et de leurs familles. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans le sud Kivu, pendant ces temps, les FARDC appellent la population d'Ovira à rester vigilante face à ce qu'elle qualifie de guerre psychologique menée par les rebelles de l'FCM23 et leurs alliés. L'appel a été lancé hier lundi par le porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud-Sud Kivu, après les combats des dimanches à Magunda, dans le groupement d'Itombwe, à 35 km d'Ouvira, entre l'armée et les groupes armés Twagineo, soutenus par des rebelles des Red Tabara. Ces affrontements ont sémé la psychose dans la ville. L'armée rassure que la situation est sous contrôle et que les assaillants qui tentaient de rejoindre Bijombo pour rallier l'AFC M23 ont été mis en déroute. Les explications du sous-lieutenant Rigen Mbui, porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud-Sud Kivu, joint par Roneline Tibonera.
Actuellement, ils souffrent d'un problème d'effectif, raison pour laquelle ils utilisent trop ces derniers temps des drones. Vous avez constaté le vendredi soir, vous et moi, où l'un de ces drones a été abattu par nos unités des FARDC déployées en Zibira. Pour conclure, laissez-moi vous dire que nos hommes sont mobilisés pour contraindre et repousser toute attaque de l'ennemi dirigée contre la population et leurs biens. Le commandant secteur opérationnel Sokola 2, Sud-Sud Kivu, tient à rassurer la population de la détermination de son armée d'anéantir complètement l'ennemi qui ne cesse d'endeuiller le peuple congolais. À l'occasion, il exhorte de rester vigilant et de dénoncer toute présence suspecte dans la zone.
Province de l'Ituri, la population du groupement de Babila Tetouri et les FARDC décident de renforcer leur collaboration pour lutter ensemble contre les exactions de rebelles des ADF dans cette région forestière du territoire de Mambasa. C'est l'une des conclusions de la réunion sécuritaire tenue au village de Tetouri dimanche entre la nouvelle société civile congolaise et l'armée dans le cadre des activités civilo-militaires des FARDC. Plusieurs autres mesures ont été prises par les deux parties pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Le point avec Martial Kizabiamongo.
La chefferie de Babila Babombi dans les territoires de Mambasa constitue l'épicentre de l'activisme des rebelles des ADF à l'Ituri. Pour y faire face, l'armée utilise plusieurs leviers. Outre les opérations militaires contre ces hors-la-loi, les FARDC ont également développé une approche civilo-militaire basée sur la concertation régulière entre les FARDC et la société civile. Le cas du Manche de Rier à Tetouri, où la nouvelle société civile congolaise locale, les FARDC ont décidé de renforcer leur collaboration collaboration. La population a été invitée à dénoncer systématiquement auprès des services de sécurité tout mouvement de ces renégats. Parmi les autres mesures prises ensemble, il y a l'interdiction des ventes et consommation d'alcool avant 15 heures locales. Les cacaos non séchés qui alimentent cette rébellion est désormais interdit des ventes sur l'ensemble du groupement des Babilababombi. Les commandants locaux de FRDC sollicitent la coopération de la population pour que ces mesures sécuritaires soient respectées. Bounia, Martial Kizabiabongu, Radio Okapi.
Ituri encore, la peste des petits ruminants continue de faire des ravages. Depuis 2023, cette maladie a déjà décimé plus de 4000 chèvres dans la province. Un chiffre communiqué ce lundi par la division provinciale des pêches et élevages qui tire la sonnette d'alarme. Reportage de Jean-Claude Lokidile.
Les territoires les plus touchés sont Mambasa et Mahagi, avec près de 3000 chèvres mortes en 2 ans. Sur les Daro, on enregistre 1003 cas contre 401 cas pour Iromu. Une situation jugée très préoccupante par Fiston Kabaseke, chef de la division provinciale de pêche et élevage.
Par exemple, les petits ruminants, les chèvres, ce sont la population qui achète, par exemple, pour les consommer à la famille. Et vous trouvez au niveau de la famille, au lieu qu'ils viennent avec les chèvres, par exemple, au niveau des aires d'abattage, la famille même propose, ils doivent abattre chez lui à la maison, sans que les services vétérinaires sachent s'ils ont envie d'abattre un animal.
Pour l'instant, faute de vaccin, les services vétérinaires disent être impuissants face à la maladie. Fiston Kabaseke appelle donc l'État congolais et ses partenaires à intervenir d'urgence en dotant sa division de moyens pour endiguer l'épidémie.
C'est pour cela que j'appelle le gouvernement provincial et le gouvernement national, que ce soit les partenaires qui œuvrent dans ce secteur, de venir en appui pour le gouvernement, qu'on puisse limiter les camps de pépères au niveau de la province de l'Ituri.
En attendant, la population est appelée à éviter toute consommation de viande non contrôlée par les services vétérinaires. Bounia, Jean-Claude Lucky, Guilé, Radio Cap.
Province du Haut-Katanga, la société civile demande au gouvernement de payer les administrateurs des territoires sur toute l'étendue du pays. Dans une déclaration ce lundi à Radio Kapi, les team leaders provinciales de la gouvernance sécuritaire et paix au cadre des concertations de la société civile du Haut-Katanga rappellent que cela fait 3 ans que les administrateurs des territoires et leurs assistants ne sont pas payés. Ils rappellent que le salaire est un droit constitutionnel et soulignent que le non-paiement de ces fonctionnaires de l'État a un impact négatif sur la gestion de leurs entités. Bertin Chose est au micro de Paul Munanga.
Un administrateur se retrouve 3 ans sans être payé. Donc, il y a un véritable problème. Et c'est comme ça que nous, en tant que société civile au milieu du village, nous avons dit, ces gens-là ne peuvent pas vivre sans salaire. Le salaire, c'est un droit qui est reconnu par la République démocratique du Congo dans notre constitution. Et les gens qui travaillent pendant 3 ans n'ont pas été payés sans des conséquences négatives sur leur rendement et surtout le travail qu'ils sont en train d'exécuter. Parce qu'ils doivent vivre, ils doivent trouver quels moyens qu'ils doivent obtenir pour la vie. Donc, la gestion de finances aura des problèmes. On peut ponctionner par-ci par-là pour vivre en attendant que son salaire vienne. Alors, c'est comme ça que nous sommes obligés, en tant que société civile, d'être à côté de nos administrateurs du territoire qui font déjà un bon travail, qui essayent de mettre de l'ordre dans notre pays. Et vous savez qu'ils sont nombreux. Ne pas les payer, c'est une faute grave. Nous demandons au gouvernement congolais de faire tout pour payer ces administrateurs.
Et puis, Kinshasa accueille du 25 au 28 août la 15e assemblée annuelle du consortium des fonds africains pour l'environnement CAFE. Cette structure regroupant 19 fonds fiduciaires africains pour la conservation de la nature et la gestion durable des ressources naturelles. Cette plateforme d'échange se propose de renforcer les capacités et les plaidoyers pour mobiliser des financements pérennes de la biodiversité africaine. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
À travers ce forum de 4 jours, les membres du consortium des fonds africains pour l'environnement réaffirment leur engagement en faveur d'une conservation durable en Afrique, fondée sur des principes de responsabilité environnementale. Au cours de ces travaux, les participants mettent en avant les fonds d'impact comme instrument clé pour une conservation responsable et efficace. Les présidents du CAFI expliquent les choix de Kinshasa comme lieu d'accueil de cette 15e édition. Théophile Zognou.
Nous essayons de mettre ensemble des bailleurs, les autorités, les pays, pour Donc ensemble, on réfléchisse à l'avenir de cette biodiversité, comment la gérer au mieux pour nos États. La particularité de cette 15e édition, c'est qu'elle se tient au Congo, parce que le Congo, c'est le poumon vert de l'Afrique et du monde. Donc nous sommes très honorés que le gouvernement congolais ait accepté d'abriter cet événement. Le Congo, c'est un continent, et avec toute sa biodiversité, tout le monde a envie de passer au Congo, d'aller dans les parcs du Congo, les gorilles et toutes les espèces qu'on a au Congo.
Cette rencontre vise également à renforcer la coopération entre les fonds fiduciaires africains pour la conservation et à promouvoir des solutions financières innovantes, inclusives et durables au service des biodiversités et des communautés locales. Ces forums réunissent les membres du consortium, des représentants des États, des bailleurs de fonds, des ONG partenaires ainsi que des acteurs du secteur privé.
Actualité internationale.
En Guinée, les propos de Talibi Dabo, personnalité politique influente à Kankan et proche du CNRD, le parti au pouvoir, suscitent de vives réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. Dans une interview à plusieurs médias guinéens, il affirme que les activistes Fonike Menge, Biloba, les journalistes Habib Marouane Kamara et Sadou Nimaga, tous portés disparus à Conakry, seraient toujours en vie.
L'invité.
Notre invité est Dr Alain Moukoua, président du Conseil provincial de l'Ordre des médecins vétérinaires à Kinshasa. Il s'exprime sur la Journée mondiale du chien, célébrée le 26 août de chaque année. Que faut-il pour élever un chien? Quels soins lui apporter? Peut-on ou pas consommer la viande des chiens? Dr Alain Moukoua répond à toutes ces questions dans cet entretien avec Alain Irung.
Docteur Alain Moukoua, bonjour.
Bonjour.
Quelles précautions faudrait-il prendre par rapport à ces animaux domestiques, en termes de prise en charge médicale, en termes de soins, en termes de nourriture par exemple?
Oui, déjà on dit que pour élever un chien, il faut être très sûr que son budget est suffisant. C'est comme un autre enfant que vous ajoutez à la maison. Et donc, les chiens nécessitent des soins appropriés. Et les vaccins, d'abord, il doit recevoir au moins 3 vaccins. Jusqu'à l'âge de 3 mois, il reçoit 3 vaccins. Les vaccins contre la parvovirose, les vaccins contre les cocktails des maladies, et les vaccins contre la rage. Et après les vaccins, c'est que toute la semaine, il faut quelqu'un pour les laver, parce qu'il est en contact avec les enfants, surtout quand il s'agit d'un chien qui est dans la maison avec les enfants, donc des caniches, les chiens de famille et les chiens d'accompagnement familial. Il faut les laver régulièrement. Il faut tuer les tiques régulièrement, les déparasiter régulièrement. Quand vous faites comme ça, les conditions seront réunies pour garder auprès de vous un chien.
En termes de nourriture, que faudrait-il lui donner? Chez nous ici, on lui donne le foufou, le pot, tout ce qui passe par la main, tout ce que l'homme consomme, le chien le consomme.
C'est pratiquement un omnivore, c'est pratiquement un omnivore. Dans nos villages, ils mangent les cacahuètes, ils mangent les maïs, et les chiens mangent un peu du tout, hein. Mais il a une tendance un peu forte à la viande. Mais si vous mélangez, ça devient un aliment complet. Il faut mélanger viande, crudité, des verdures, matembele, gaïgaï. Vous mélangez avec un peu de viande, un peu de foufou, vous lui donnez. Là, il devient pratiquement un omnivore. C'est une façon d'approcher les chiens à votre famille. Sinon, on lui donnerait de la viande crue. Certaines personnes donnent uniquement de la viande crue. Mais attention, là, vous êtes en train de former un criminel chez vous, parce que les jours où il n'y aura pas de la viande crue, il va consommer un de vos enfants.
Certaines personnes apprécient beaucoup la viande de chien. Qu'est-ce que vous en dites en tant que médecin vétérinaire? Faudrait-il, oui ou non, consommer la viande de chien?
En médecine vétérinaire, on ne consomme pas les charognards, les carnassiers, les carnivores.
Alors, allons-y par des exemples. Le carnivore, c'est comme les chiens?
Comme les chiens, les chats, on ne les consomme pas. Les charognards, c'est par exemple ceux qui sont dans des poubelles, les corbeaux, etc. On ne les consomme pas, certains aigles. Et puis, les carnassiers, comme les lions, on ne les consomme pas. Parce que leur patrimoine génétique est très proche de l'homme. Si vous les consommez, vous risquez de contracter les pathologies qu'ils ont et finalement de finir dans un cercueil. C'est pourquoi on l'interdit de les consommer. Mais alors, nous on dit tout ce que Dieu a fait est bon, c'est vrai. Si vous voulez consommer des animaux interdits, c'est-à-dire il faut les élever vous-même. Il faut se rassurer que les chiens que vous êtes en train de consommer n'est pas passé par la poubelle, n'est pas passé par l'errance, il n'a pas mangé des choses inappropriées, et c'est pour des raisons éthiques aussi qu'on ne peut pas consommer un chien comme ça. Vous voulez manger les chenilles, élevez les chenilles pour les manger. Vous voulez manger les poissons, élevez les poissons pour les manger, parce que tout ce que l'on mange doit être contrôlé et suivi.
Y a-t-il des races de chiens très dangereuses qu'il ne faudrait pas élever ou qu'il faut élever avec beaucoup de précautions?
Il y a des races qui sont interdites à travers le monde et dans plusieurs pays et dont on ne peut élever qu'avec autorisation de la mairie ou autorisation de l'autorité vétérinaire compétente. Les pitbulls, les berbulls, même des dobermans, hein, ce sont des chiens extrêmement dangereux. Un certain croisement entre chien et loup, c'est très dangereux et très imprévisible. Ils peuvent pas obéir à tout moment.
Tout en souhaitant bonne fête à tous les chiens aujourd'hui, un conseil pour les auditeurs et internautes qui vous suivent et qui aiment les chiens.
Si vous n'avez pas les moyens, ça ne sert à rien de chercher des problèmes. Pour élever un chien, il faut un minimum de moyens. Si ta maison n'est pas encore suffisamment nourrie, ne cherche pas un chien dont il ne saura pas nourrir. Et pour ceux qui ont des chiens et qui ont tous ces moyens-là, de veiller à ce que les moyens qu'ils utilisent pour leur propre famille soient les mêmes moyens qu'ils utilisent pour les chiens. Parce que sinon, ça devient une arme qui est pointée sur lui-même dans sa propre maison.
Docteur Alain Moukoua, je vous remercie.
C'est par ici aussi que nous mettons un point final à notre grande édition du Journal du Matin. Merci de nous avoir suivis.